sind wir. Ah, oh, Herr Jesus, Herr, und so beten wir auch für heute Abend, dass du dich uns weiter offenbarst, Herr. Dass du in uns wirkst und auch durch uns wirkst, Herr. Ah, oh, Herr, wenn wir dein Wort lesen, dann gib uns einen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ah, oh, Herr, und erleuchte die Augen unseres Herzens.
Que nous voyons ce qui est sur ton cœur. Amen. Louez le Seigneur. Il est beau que certaines personnes, frères et sœurs, aient déjà apporté des choses de la parole. Cela décharge aussi de partager tout ce qui a déjà été partagé. Et ce temps, nous devons le porter tous ensemble. Oui, soyez avec tous les frères et sœurs qui partagent, tous les frères et sœurs, les frères qui partagent aussi. Que le Seigneur puisse se révéler à nous. Ce soir, nous avons un titre, l'œuvre de Christ, et quand nous parlons de l'œuvre de Christ et aussi de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas tellement facile d'en parler. Et nous ne voulons pas le faire d'une manière analytique, mais nous avons ce grand fardeau que le Seigneur se révèle, qu'il ouvre, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Autrement, ce n'est pas possible. Vous savez, il y a beaucoup de méthodes humaines pour transmettre le savoir. Et aujourd'hui, il y a des méthodes exceptionnelles pour transmettre des connaissances avec la motivation, avec du savoir-faire, pour le donner à quelqu'un, le transmettre à quelqu'un. Mais je ne suis pas doué dans ce domaine-là, mais cela n'aiderait pas non plus. Si j'étais apte à vous déposer des choses dans votre intelligence, nous avons tous besoin de cette prière. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, montre-moi ce que toi tu as sur le cœur. Seigneur, montre-moi ce que toi tu fais aujourd'hui. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Et je crois que dans ces versets d'Éphésiens, nous voyons une merveilleuse image. Une merveilleuse description. Et là, le Seigneur nous montre de manière très précise d'où nous venons. N'est-ce pas remarquable de savoir d'où nous venons? Oui, ce matin, cela a été très clair. Nous avons le vieil homme qui n'a pas un bon arrière-plan. Oui, il y a beaucoup de mauvaises choses à dire de lui. Et ce qui est mauvais, ceci existe dans toutes les facettes, depuis des choses très négatives, très visibles, et même montées, appréciées par ce monde, jusqu'au vieil homme qui se présente aussi de manière très belle. Il peut se présenter de manière très belle, mais c'est exactement la même chose. C'est le vieil homme, de A jusqu'à Z. Sous quelle forme? Peu importe la forme sous laquelle on le voit. C'est le vieil homme. Et c'est le Seigneur qui a terminé, détruit le vieil homme et tout ce vieil homme. Et c'est très encourageant. Et au verset 3, il est dit aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair. Et ça, c'est le vieil homme qui est très visible aujourd'hui dans ce monde. Mais je pense que pour chacun de nous qui a un sentiment spirituel, il y a cette convoitise de la chair qui est vraiment évidente. Paul dit, accomplissant les volontés de la chair. C'est surprenant, non? La chair a la volonté. On dit les volontés de la chair. Donc, on a déjà vu le verset aujourd'hui. La volonté de Dieu, 1 Pierre 4. Pierre nous dit, utilisez le temps restant à faire la volonté de Dieu. Mais en opposition à cela, il y a aussi la volonté de la chair Et cette volonté essaie toujours à nouveau de s'imposer de bonne manière et de mauvaise manière. Cette chair essaie toujours à nouveau de percer si elle n'est pas traitée, si elle n'est pas sous contrôle de l'esprit, de la croix, si elle ne demeure pas sous le contrôle de la croix. Alors cette chair perce de nouveau, elle se met à l'avant. La chair accomplit sa volonté. Et ce n'est pas seulement une volonté de la chair, c'est même une volonté. Seigneur, on va le relire encore une fois. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oh, des pensées? Ça, ce n'est plus tellement évident. Les pensées ne sont-elles pas aussi de bonnes choses? Quelqu'un a pensé quelque chose? Quelqu'un s'est posé des questions? Moi, il est un peu meilleur. Comment puis-je dire? Oh. Et dans son application, dans sa manière de travailler, on peut penser que c'est bon. Mais, dans Éphésiens 2, cela tombe aussi dans la catégorie de la chair et donc du vieil homme. La volonté des pensées. À Stuttgart, on a une superbe bibliothèque. Quand tu es là-bas, tu y trouves des milliers de livres consacrés à chaque thème. Mais quand j'y suis avec les enfants, alors je pense, ok, j'y vais, c'est bien. Mais en fait, il y a plein de pensées humaines qui sont mises par écrit. Des bonnes, des mauvaises, des belles, des moins belles. Oui, ce sont les pensées humaines. Oh Seigneur, qui encore va aujourd'hui en bibliothèque? C'est beaucoup plus rapide de prendre le portable, n'est-ce pas, là, avec ce petit objet portable. On fait clic-clic et on y est. Ouais, là aussi, il y a beaucoup de pensées, n'est-ce pas vrai? Il y a aussi de bonnes pensées et des moins bonnes. Certaines pensées visiblement charnelles. Il y a tant de choses qu'on peut trouver là. Et nous savons tous, nous avons besoin des livres et aussi de ces appareils, c'est sûr. Mais nous devons savoir que nous devons régner sur ces choses-là et que le Seigneur nous a transférés dans un autre royaume. Dieu est riche en miséricorde et néanmoins, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Quoique nous ayons été morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. N'est-ce pas merveilleux cela? Il nous a transférés dans un nouveau royaume. Nous qui étions morts, nous sommes rendus vivants avec Christ. Et quand nous parlons de la mort, la mort est là pour. La mort est une fin pour toute chose qui est humaine. Quand tu crées une entreprise, tu as besoin d'hommes qui soient vivants. Ou quand tu veux faire quelque chose. Oui, il est nécessaire d'avoir des hommes qui peuvent faire quelque chose. Mais avec la mort, les morts, le Seigneur ne peut rien faire. Mais, vu d'une manière humaine, la mort est toujours une fin. Et vu spirituellement, c'est un commencement, n'est-ce pas merveilleux? Là où tout ce qui est humain s'arrête, là où l'homme dit, c'est fini, fini, eh bien exactement là. Là, le Seigneur commence à œuvrer en résurrection. Louez le Seigneur! Oui, là, à l'époque où les gens se disaient, ceux qui ont travaillé avec le Seigneur alors qu'il vivait encore sur terre, quand ils pensaient, donc quand ils l'amènent à la croix, alors c'est la fin. Même ceux qui étaient avec lui ont été étonnés, parce que sûrement beaucoup ont pensé également, c'est la fin maintenant. la mort à la croix. Oui. Nous avons été emmenés dans sa mort et rendus vivants. Et comme Fritz l'a déjà dit, mais Paul, il a reçu sa révélation. D'où que nous sommes emmenés dans sa mort? C'est déjà un mystère. Et le Seigneur doit aussi nous le révéler. Ce que le Seigneur a fait, cela est pour nous pas seulement objectif, mais c'est, ça nous est révélé et il nous y a emmenés là-dedans. Tout ce que le Seigneur a accompli est aujourd'hui la base pour son œuvre, pour ce qu'il fait aujourd'hui. Sans son œuvre accomplie, à l'époque, il n'y aurait pas d'œuvre spirituelle sur cette terre. Mais louez le Seigneur. Parce que ce que le Seigneur a accompli, il y a un chemin. Peut-être lisons-nous encore quelques versets à ce sujet. Dans 2 Corinthiens 5, que pensez-vous si quelques jeunes frères le lisaient? 2 Corinthiens 5, qui a une foi qui porte, ou qui ne porte pas d'ailleurs, mais une parole. 2 Corinthiens 5, les versets 15 à 16. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Louez le Seigneur. Tout ce qui est vieux est du passé. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est même une création complète nouvelle. Certaines choses que nous avons entendues au début, il nous faut le garder en arrière-plan. Garder un peu cette création nouvelle en arrière-plan. Et donc maintenant, le Seigneur est mort, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, le Seigneur n'est pas seulement mort, mais il est encore ressuscité. La vie de résurrection est certaine pour nous. Et qu'est-ce qu'il y a après la résurrection dans l'œuvre du Seigneur? Il est monté en ascension. Oui, louez le Seigneur. Il n'est pas seulement ressuscité, mais il est même monté en ascension. Oh Seigneur, nous voulons te connaître en tant que celui qui est monté en ascension. Et en tant que celui qui est monté en ascension, il est aussi monté au trône. Pas seulement au trône, monté au trône, mais en plus, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Ensemble, il s'est assis dans les lieux célestes, mais ceci ne l'a pas fait seul. C'est vraiment remarquable. Le Seigneur est assis aujourd'hui sur le trône, mais non pas seul, mais ensemble. Un jour, quelqu'un a dit que la vie chrétienne commence avec le fait d'être assis. Oui? Aimerais-tu bien être assis? Qui aime être assis? Oui, selon le cas. Parfois, on aimerait bien être assis. Mais bien, parfois, nous aimons aussi faire quelque chose. Quand tu es fraîchement sauvé, tu veux faire quelque chose. Mais le Seigneur Il nous fait asseoir dans un premier temps. Il nous emmène dans son œuvre par la foi. Que nous nous asseyons avec lui et lui avec nous, sur le trône, dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où es-tu assis aujourd'hui? Amen. Dans les lieux célestes. N'est-ce pas merveilleux? Seigneur Jésus, nous ne sommes pas assis à Stuttgart quelque part, mais nous sommes assis sur le trône. Nous participons à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il a accompli. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, en fait, ça veut dire que nous sommes au-dessus de toute chose. Nous avons été enlevés de la terre, assis en lui. Nous participons à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Nous avons pris une nouvelle position. Ce serait merveilleux, simplement, que de rester là, toujours. N'est-ce pas? Ou non? Oui, nous pouvons faire cela. Nous pouvons toujours remercier le Seigneur pour ceci. Seigneur, je suis assis dans les lieux célestes. Dans des moments difficiles, Seigneur, je suis assis dans les lieux célestes. Quand les choses terrestres deviennent difficiles, deviennent grandes, alors nous pouvons dire, Seigneur, je suis assis en toi dans les lieux célestes, avec toi. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas quelque chose qui nous donne une bonne position? Seigneur Jésus. Mais savez-vous une chose? Paul, à cet moment-là, à cet endroit-là, il continue encore. Il nous faut aller dans Éphésiens 4 et voir ce dont témoigne Paul là, ce qui nous montre ce que ça signifie que le Seigneur est mort. Il est rentré jusque dans le royaume des morts et d'un autre côté, qu'il est également monté en ascension. Cela signifie encore plus qu'il est simplement assis sur le trône. Ce serait déjà pas mal, non? Vu humainement, c'est déjà assez. Combien d'hommes essayent d'obtenir une place sur le trône, même si ce n'est qu'un tout petit trône? Dans les entreprises, dans les équipes de management, et même quand on est dans un comité, et quand tu es dans un comité. Mais tu peux oublier tout ça. Au trône, aller jusqu'au trône. Et le Seigneur nous a amenés au trône. N'est-ce pas merveilleux? Oui, tout effort humain à une autre dimension là-bas. Naturellement, nous faisons un bon travail, mais le fait d'être assis sur le trône est encore une fois autre chose. Nous pouvons lire dans Éphésiens 4. On peut le lire tous ensemble ou quelqu'un désire-t-il lire? Donc, dans Éphésiens 4, nous lisons 7 à 10. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Oui, c'est tellement merveilleux comme cette parole ici il a une relation importante avec nous. Le Seigneur est descendu et il est monté également au-dessus de tout. On ne peut pas aller plus haut. Et il est monté et il a aussi tout accompli. Oui, tout accompli. Qui peut tout accomplir? Qui peut tout remplir afin de remplir toutes choses? Mais encore plus a-t-il fait. Et là, d'un coup, on revient à quelque chose de très pratique. Il n'a pas seulement tout accompli ou tout rempli, mais il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, n'aurions-nous pas pu rester aux choses célestes maintenant? Qui ne veut pas les choses célestes? Mais le Seigneur l'a fait pour que sur cette terre, il puisse faire une œuvre. Oui, aujourd'hui, ici, sur la terre, le Seigneur veut faire une œuvre. Il a une œuvre. Afin, pour le perfectionnement des saints. Oui, louez le Seigneur. Le Seigneur perfectionne pour le perfectionnement des saints. À quoi? Ou en vue de quoi? En vue de l'œuvre du ministère. Donc, dans son ascension, il a donné des hommes. Il a fait des dons. Des hommes qui, en unité avec lui, ici, vivent sur cette terre et accomplissent une œuvre. L'œuvre du service ou du ministère, de l'édification du corps de Christ. Oui, ça, c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui, depuis 2000 ans déjà. Mais que fait-il? Il est assis sur le trône, mais il a ici, sur cette terre, une œuvre, comme nous l'avons déjà dit ce matin, lorsque nous avons cru au Seigneur. Nous avons expérimenté un merveilleux salut. Nous sommes rentrés dans un nouveau domaine. Nous sommes passés au travers de la mort. Mais si cela était tout, ce serait trop peu. Nous avons aussi besoin d'une vision de ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Oui, parfois, nous sommes tellement fiers de ce que nous avons déjà, de ce que nous avons avec notre salut. Oui, c'est merveilleux. Mais le Seigneur veut aller plus loin. Oui. Quand un enfant de primaire sait lire, il est fier. Enfin, il sait lire. Il peut tout lire. Ouais. Et y a-t-il encore quelque chose de plus? Il y a encore quelques classes après. Le cours préparatoire. Et si humainement cela continue encore, combien plus dans le domaine spirituel? Le Seigneur nous fait avancer pas après pas dans ce qu'il fait aujourd'hui. Il veut nous amener à l'édification du corps de Christ, à l'œuvre du ministère, l'œuvre du service. Nous avons besoin d'une prière. Seigneur, révèle-moi ton œuvre, l'édification du corps de Christ. Oui, quand celui qui est assis sur le trône aujourd'hui bâtit le corps, il doit y avoir quelque chose de fait. Ça doit avoir un poids. Cela doit avoir une valeur qui est au-delà de ce qui est céleste. Sinon, il aurait suffi de monter en ascension. Sinon, ça aurait suffi d'être assis sur le trône. Mais il fait quelque chose aujourd'hui, l'œuvre de l'édification sur cette terre. N'est-ce pas merveilleux? Seigneur Jésus, il a une œuvre. Le Dieu vivant a son œuvre. Et que dit Éphésiens 2? On va voir différents aspects. des aspects qui ne sont pas de son œuvre, mais que dit-il de son œuvre? Son ouvrage ou son œuvre, c'est nous, car nous sommes son œuvre, son ouvrage, au verset 10. N'est-ce pas quelque chose de hardi de dire son ouvrage, c'est nous, son œuvre, c'est nous? C'est une parole forte. L'Église est son œuvre, l'œuvre de Dieu, sur cette terre aujourd'hui. Son œuvre, nous sommes son œuvre. Et j'ai fait quelques recherches. Cette œuvre-là, ce qui est nommé ici œuvre. Donc quand on regarde dans une concordance ou dans un autre livre, le mot œuvre. Mais quand on regarde dans le grec, le mot utilisé, ça n'existe que deux fois dans le Nouveau Testament. Une fois dans Romains 1, 20. Si quelqu'un veut bien le lire, Romains 1, 20. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Donc ici, nous parlons de l'œuvre de la création. Donc, c'était son œuvre. C'était son œuvre ici sur la terre, à l'époque. À l'époque, la terre devint déserte. Il a fait une œuvre. Une œuvre de création à laquelle nous pouvons voir aujourd'hui ce que le Dieu vivant a fait. Et c'est merveilleux. Je dois vous dire, parfois je ne fais pas tellement attention à cela, mais parfois il est intéressant de parler avec des gens qui ont un regard sur la nature, sur les plantes, sur les fleurs, les animaux. Et quand tu les contemples, c'est tellement fait de manière intéressante, avec tant de sagesse ça a été fait. Qui regarde tout ceci ensemble, ou comme tout ceci fonctionne ensemble, comme certaines plantes dépendent dans leur croissance d'autres plantes, comme certaines choses vont ensemble, et comme il ressort une gloire qu'aucun homme ne peut créer. Que cette gloire revient toujours à nouveau et ensuite disparaît. Sans faire quoi que ce soit comme poubelle. N'est-ce pas merveilleux quand les hommes font quelque chose? Il y a des choses qui disparaissent aussi. Mais souvent, il reste plein de déchets. Et tout se pose la question. Comment est-ce qu'on va de nouveau pouvoir se débarrasser des déchets des œuvres humaines? Certains produits aujourd'hui, on sait déjà que ce sera difficile de se débarrasser des déchets. Et le Seigneur, ce qu'il a créé, lui, cela disparaît, et de nouveau, d'un coup, ça revient dans la même gloire, avec la même gloire, par la mort et par la résurrection. L'avez-vous déjà remarqué? Donc, j'aimerais pas passer trop de temps là-dessus, mais ne serait-ce que ceci, cette création que nous pouvons voir de nos propres yeux, que Paul décrit aux Romains, leur ayant fait connaître les perfections invisibles de Dieu. Ne serait-ce que là-dedans, on peut voir une œuvre sur cette terre, une œuvre qu'aucun être humain ne peut faire, même avec les meilleures machines. Non, on ne peut pas le refaire. Ça, c'est un ouvrage, une œuvre. Et maintenant, c'est ce deuxième ouvrage ou cette deuxième œuvre où le mot œuvre, ce même mot en grec apparaît, est dans Éphésiens 2. N'est-ce pas merveilleux? Il y a de nouveau une œuvre. Il y a différentes traductions pour cette œuvre. On peut aussi le traduire par chef-d'œuvre. C'est quelque chose de particulier. Quand quelqu'un ou un petit enfant fait quelque chose, fait un chef-d'œuvre, ça a aussi une certaine valeur pour l'enfant et pour les autres. Quand un adulte fait un chef-d'œuvre, ça a aussi une valeur. Quand c'est un homme doué, plein de capacités, qui fait ceci, alors la gloire est encore plus grande. Et celui qui est un connaisseur le remarque et dira, ça c'est un maître qui a fait ceci. Ça c'est quelqu'un qui sait. Et qu'en est-il si le Dieu vivant fait un ouvrage ou une œuvre? Ça doit vraiment être un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Ce qui paraît même déjà banal, ici, là, son ouvrage, son chef-d'œuvre, c'est nous. Et que dit-il encore avant? Et c'est aussi remarquable, Paul dit, il délimite ceci. Il dit, il délimite par rapport aux hommes, aux œuvres humaines. Au verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Louez le Seigneur. Ici, il y a une affirmation très claire. Et cela ne vient pas de vous. Ça, nous pouvons toujours de nouveau, comment dois-je dire, avec un soupir de détente, nous pouvons le dire. Non, pas de moi. Seigneur, cela ne vient pas de moi. Quand nous servons, nous pouvons dire, Seigneur, cela ne vient pas de moi. Oui, oui, cela ne vient pas de vous. Amen. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Et donc maintenant, il y a d'autres œuvres qui apparaissent là, qui donc deviennent visibles stupidement. Donc ce n'est pas la troisième fois du mot. Mais là, ce sont d'autres œuvres dont il est question. Là, on parle des œuvres humaines maintenant. Et les œuvres humaines, donc l'origine est humaine, elles n'ont pas de participation à l'œuvre de Dieu. Elles n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Paul insiste toujours à nouveau là-dessus. Et particulièrement, il le dit aux Corinthiens. Il parle contre la sagesse humaine. 1 Corinthiens 2, le verset 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Afin que votre foi fut fondé non sur la sagesse des hommes. Si je devais le dire dans des paroles modernes, Paul avait du respect que la foi, ou plutôt il craignait que la foi soit basée sur la sagesse des hommes. Parce qu'on pouvait trouver la foi par rapport aux choses religieuses. Les Juifs pouvaient présenter certaines sagesses, mais en ce qui concerne les choses spirituelles, la foi ne doit pas être fondée sur la sagesse des hommes. L'œuvre de Dieu n'a pas le droit de reposer sur la sagesse humaine. Et elle ne le peut même pas. Mais parfois, il semblerait que la sagesse des hommes pourrait quand même encore apporter quelque chose. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Tout le monde sait qu'il y a de la sagesse humaine sous différentes formes. Par exemple, comme des hommes peuvent apporter quelque chose, comment on peut s'exprimer. Mais cette sagesse humaine n'édifie pas l'œuvre de Dieu. Quel est l'opposé de cela? Mais c'est la puissance de Dieu. Les pensées humaines, nous en avons parlé avant. Oui, elles peuvent être belles, ces pensées. Oui, nous avons cette affirmation, une belle pensée. Oui, il existe de belles pensées. Et il y a aussi des pensées qui sont intéressantes, captivantes. Parfois, certaines personnes ont cette aptitude de présenter des nouvelles choses et c'est vraiment stimulant, motivant. Et certains autres continuent à fabuler même davantage et veulent aussi apporter quelque chose dans des temps modernes. Veulent développer encore davantage. Tous ceux qui sont destructifs. En fait, bon, ce qui est passé, c'est passé, c'est du vieux. On va le rapporter avec un nouvel habit. Mais le Seigneur ôte tout ce qui est vieux. Et les hommes essayent simplement de l'envelopper d'une nouvelle manière. Mais il faut faire attention. Ah, tu peux dire, ah, ça j'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu autrefois, ceci. Ça, c'est la sagesse humaine. Tu emballes simplement nouvellement. Ouais, c'est de vieilles choses que tu mets dans de nouveaux vêtements. Oui, Seigneur Jésus. Parfois, nous avons aussi besoin, le fait de pouvoir... Ce qui se passe derrière, des choses qui sont comme emballées nouvellement, n'est-ce pas quelque chose qui a existé autrefois déjà, qui déjà autrefois a posé des problèmes, n'est-ce pas l'œuvre de l'ennemi là, avec la sagesse du vieil homme? Oui, regarde un peu en dessous. Et tout d'un coup, tu vois, oh, mais ça a déjà existé une fois. Parfois, on sait déjà comment cela va continuer. Seigneur Jésus, que le Seigneur nous garde. Je ne voulons pas revivre comment ça continue, mais que le Seigneur nous sauve. Il veut que tout ce qui est humain soit amené à sa fin. Les capacités humaines, la sagesse humaine, la force humaine. Et cela doit se produire par sa puissance, par son esprit. Oh, Seigneur Jésus. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, il est toujours à nouveau question de l'œuvre. C'est aussi très intéressant. Mais le temps ce soir nous manquerait de parler de toute cette œuvre. Mais savez-vous, ce qui est souvent désigné par l'ouvrage de ses mains, donc dans Deutéronome 4, le verset 28, l'œuvre de ses mains ou l'ouvrage de ses mains, Deutéronome 4, 28. Donc, Deutéronome 4, verset 28. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ça, c'était l'ouvrage de main d'homme. Ils ne voient pas, ils ne sentent pas, ils n'entendent pas, mais néanmoins, ils sont adorés. Et chaque époque avait ces choses qui étaient tellement importantes. Faites de main d'homme qui ne voient pas, qui ne sentent pas, qui n'entendent pas. Ça, c'est l'œuvre des hommes. Que le Seigneur nous donne toujours à nouveau la grâce pour voir ceci. Pour voir ceci comme quand on voit à l'intérieur de quelque chose. Qu'y a-t-il encore dans l'Ancien Testament? Considéré comme l'ouvrage. Qu'y a-t-il d'autre? Et encore deux choses. J'aimerais dire deux choses. J'espère que j'arriverai à les présenter jusqu'au bout. Une chose, donc, on peut le lire peut-être demain ou ce soir encore. Le verset est dans Exode 30. C'est l'œuvre de celui qui prépare le parfum d'onction ou l'huile d'onction. C'est une belle œuvre. Il préparait l'huile odorante, une huile d'onction. Mais cette huile odorante est en même temps une image du Nouveau Testament et qui a été reprise dans le Nouveau Testament. Donc, l'onction, l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses, qui nous amène dans toute la réalité de toutes choses, cette huile d'onction qui coule. Amen. N'est-ce pas précieux, cette œuvre-là? Et le Seigneur a également fait une telle œuvre sur cette terre. Comment a terminé son œuvre? D'un côté, il est passé par la mort et la résurrection, et il est monté en ascension jusqu'au trône, mais en même temps, il a aussi donné l'Esprit. Oui, il a envoyé l'Esprit. Oui, l'Esprit fait aujourd'hui en nous son œuvre, une œuvre qui demeure, une œuvre d'une gloire éternelle. Louez le Seigneur pour une telle œuvre de l'Esprit. Et l'autre œuvre qui est souvent évoquée dans l'Ancien Testament, il faut que vous regardiez. Celui qui a du temps peut vraiment utiliser les fonctions de recherche de la concordance. Et là, vous pourrez trouver de beaux versets. J'en ai quelques-uns dans le résumé, ici. Donc, Néhémie parle beaucoup. C'est très surprenant. Dans certains livres, il n'en parle pas trop, mais Néhémie en parle. Néhémie 4, verset 9. Donc, Néhémie était sorti de la ville de Babylone pour rebâtir la ville de Jérusalem, pour rebâtir ce qui avait été détruit, afin que la ville de l'Éternel, Jérusalem, soit bâtie, rebâtie. C'est une grande œuvre. Et dans cette reconstruction, il y avait la reconstruction de la muraille. Oui, la ville n'avait plus de muraille. C'était une condition pitoyable. La ville n'était plus protégée. Et maintenant, il y avait ici des hommes qui ont recommencé à bâtir. Donc, Seigneur, je n'ai pas le. Apparemment, il y a un décalage des versets. La moitié des gens travaillaient à l'œuvre et l'autre moitié tenait les épées et les grands se tenaient supportés. Je n'ai pas la référence exacte, mais bon, j'essaye de suivre. Donc, ils travaillaient d'une main à l'œuvre. Ils travaillaient à l'œuvre pendant que les autres tenaient les armes. C'est vraiment un temps guerrier ou une époque guerrière de combat. Mais c'était tellement important. Ils ont vu à quel point cette muraille était existentielle. Les ennemis étaient contre le fait que la muraille soit reconstruite. Ils voulaient une ville sans muraille. Ils avaient arraché les murailles et ils voulaient que la ville reste ainsi. Et il y a eu des combats. Mais là-bas, le peuple a reconstruit la muraille. Dans le combat. Mais le combat était vraiment de tenir, d'avoir l'épée en main et de bâtir de l'autre main. Oui, que nous puissions bâtir à l'œuvre du Seigneur, que nous bâtissions la ville, que nous rebâtissions la muraille. Amen. Chapitre 5, verset 16, je ne vais pas prendre tous les versets. Et j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Qui va se mettre à cette œuvre de réparation? Il nous faut, nous aussi, commencer cela. Si déjà le Seigneur est en train d'œuvrer, nous aussi, nous devons marcher dans cet ouvrage. Et j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Nous n'avons pas acheté le champ. Aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. Ça aurait été aussi quelque chose de bien d'avoir un champ, non? On ne sait jamais. On ne sait pas s'il y aura toujours assez de nourriture. Il dit, et nous n'avons acheté aucun champ. Ils ont bâti. Il a posé des priorités. Il a établi des priorités. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas tout faire en même temps. L'avez-vous déjà remarqué? En fait, je pense souvent que je peux faire beaucoup de choses en même temps. Mais alors, de la part de frères et sœurs, parfois de la part du Seigneur, j'ai un avis qui me dit, non, tu ne peux pas faire tout en même temps. Pas tout ce que je trouve bon. Seigneur, le Seigneur veut nous enseigner à établir des priorités. Ici, nous ne parlons pas de quelque chose qui est à rejeter, par exemple d'acheter un terrain. Non, ce n'est pas à rejeter. C'était peut-être même nécessaire. Mais eux se sont concentrés sur l'œuvre et l'ont travaillé à cette œuvre. Tout mes serviteurs étaient rassemblés là. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un merveilleux témoignage dans la vie de l'Église? Que faisons-nous? Nous sommes tous ensemble à l'ouvrage. Chapitre 6, le verset 9. Tous ces gens, donc il y a ces ennemis qui viennent, voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera point. Oui, ça c'est un danger, d'être fatigué. L'ennemi espère cela, que nous arrêtions à un moment donné, que nous perdions courage, que nous laissions tomber. Que dit Néhémie? Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi, fortifie mes mains en allemand. Oui, que le Seigneur nous fortifie pour faire son œuvre. Et puis le verset 16. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Ça aussi, ça m'a vraiment plu. N'est-ce pas merveilleux? Cette œuvre est accomplie par la volonté de notre Dieu. Oui, nous ne sommes pas dans une œuvre humaine, mais l'œuvre est accomplie par la volonté de Dieu. Et cette œuvre a de la consistance. Louez le Seigneur. Donc, dans ces exemples, nous avons déjà vu, avons-nous vu comment est l'œuvre de Dieu? Son œuvre, nous sommes son ouvrage. Créé. Ah, il y a le mot de créé. L'avez-vous? Créé. N'étions-nous pas avant à la création? Et là, il y a une nouvelle création. Le Seigneur a créé. Dieu a créé. Nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres. Donc maintenant, nous pouvons collaborer. Maintenant, comme Néhémie, nous pouvons dire, allez, mettons-nous à l'ouvrage. Donc ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, et que sont ces bonnes œuvres? Oui, je reprends l'édification de sa maison. Je pense que c'est vraiment aussi cette direction des bonnes œuvres qui vise l'œuvre du Seigneur. Il y a beaucoup de bonnes choses que nous puissions faire, mais il n'en est pas tellement question ici de faire tout ce qu'on peut faire dans le bien. Mais il y a ici cette petite phrase. Il est dit les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles, littéralement. Donc, afin que nous les pratiquions, afin que nous marchions en elles. Le Seigneur a besoin de personnes qui marchent dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance et qui cherchent ces œuvres-là et qui posent la question au Seigneur. Mais Seigneur, qu'as-tu préparé? Est-ce seulement bon ou l'as-tu préparé aussi? Est-ce le moment de se faire ceci? Le Seigneur toujours à nouveau doit nous sauver de ces bonnes choses et que nous voyons des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance, que nous ayons une bonne direction, que tout ceci amène à son œuvre et que son œuvre ainsi soit amenée à la plénitude. Et cela se produit par la conduite de l'Esprit. Oui, aujourd'hui, nous avons l'onction. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit qui nous enseigne à marcher dans ses bonnes œuvres. Nous n'avons pas besoin de deviner. Oui, nous pouvons aussi attendre. Et parfois, il nous faut attendre parce que ce n'est pas clair, pas assez clair. Et pas seulement, « Oh oui, bon, hier, j'ai rencontré celui-là et donc j'ai décidé que je dois faire cela. » Oui, peut-être. Et qu'en est-il si le Seigneur nous le disait lui-même? Si nous voyons des circonstances, dans ces circonstances, pourquoi ne posons-nous pas la question au Seigneur? Seigneur, si j'ai rencontré celui-ci, est-ce que c'est toi qui as préparé ceci ou est-ce qu'il a simplement traversé mon chemin juste comme ça par hasard? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Que le Seigneur nous donne la grâce, que nous soyons clairs en esprit, que nous puissions marcher dans les bonnes œuvres que lui a préparées. J'ai encore inscrit quelque chose ici, mais j'ai l'impression qu'on n'aura plus le temps. Mais il est toujours, cela correspond toujours à la parole de la vérité. Ou dit autrement, cela correspond à la saine doctrine. Louez le Seigneur. Ça, on l'a vu dans les réunions de maison. alors que nous sommes passés au travers des épîtres de Tite et de Titus, il y a toujours à nouveau, il est parlé de saine doctrine ou de saine enseignement. On parle beaucoup de santé aujourd'hui, de bonne santé, mais aussi de maladie. Mais nous avons un enseignement sain, S-A-I-N. La parole de l'Écriture est tellement saine. Nous n'avons besoin de rien y ajouter. Elle guérit, elle donne une direction, elle nous donne un cadre solide pour tout ce que le Seigneur veut faire. Que le Seigneur, que nous connaissions ces vérités des saints enseignements. Et c'est également fait par la grâce. Par la grâce, vous êtes sauvés. Oui, ce que fait le Seigneur va aussi se produire par la grâce. Les œuvres préparées d'avance apportent aussi la grâce. Connaissez-vous cela? Parfois, nous faisons quelque chose, le Seigneur nous guide, et ce n'était vraiment pas du tout selon notre emploi du temps, ce que nous avions prévu. Mais le Seigneur nous a guidés. Donc, ce qui est toujours déterminant, c'est que ça va souvent contre notre volonté, mais il y a de la grâce qui l'accompagne. Le Seigneur donne la grâce, il donne l'approvisionnement, il donne son riche approvisionnement. Louez le Seigneur pour ses œuvres que nous faisons, mais dans la grâce. Et en dernier, notre temps. Peut-être un des biens les plus précieux dans ce siècle est le temps. Même les petits-enfants disent, maintenant, je n'ai pas de temps. Vous rigolez, n'est-ce pas? Parfois, je rigole aussi, mais je me dis, mais comment est-ce possible? Ils ne sont même pas encore à l'école et ils n'ont pas de temps, c'est quoi ça? Parfois, c'est aussi une excuse, je pense, le temps. Parfois, je pense que c'est aussi une excuse pour nos priorités. Nous avons du temps pour ce à quoi nous donnons la priorité. Donc, que nous soyons encouragés pour donner notre être, notre temps au Seigneur, à l'œuvre du Seigneur, mettre notre temps à la disposition du Seigneur et de marcher dans les œuvres préparées d'avance, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Amen.